Alors moi, je vais vous parler tout d'abord d'un livre de Céline Spector qui s'appelle « Éloge de l'injustice », éloge écrit au pluriel. Alors Céline Spector est une ancienne élève de l'École normale supérieure. Elle a enseigné ou elle enseigne encore à l'Université de Bordeaux et elle est membre de l'Institut universitaire de France. Alors, ses travaux portent pour l'essentiel sur la philosophie française du XVIIIe, Montesquieu, Rousseau, et sur la philosophie contemporaine. Et elle s'intéresse à la place de Rousseau dans la philosophie politique contemporaine. Alors, elle a écrit différents ouvrages, Montesquieu, pouvoir, richesse et société, Montesquieu et l'émergence de l'économie politique, également un livre sur Rousseau, et celui-ci, Éloge de l'injustice, paru en 2016. C'est sous-titré « La philosophie face à la déraison ». Alors, sur la forme du livre, c'est rédigé de la façon suivante. Il y a des analyses philosophiques, bien sûr, entrecoupées d'intermèdes qui sont des reprises d'auteurs de littérature qui parlent de politique. Alors, on trouvera des extraits des « Nuées » d'Aristophane, du « Roi Lear » de Shakespeare, du « Don Juan » de Molière, du « Don Giovanni » de Mozart, pour illustrer par des exemples concrets son propos. Ça permet de faire respirer un peu un texte philosophique qui est assez, par moments, difficile à lire. Alors, elle recourt, toujours sur le plan de la forme, elle recourt à ce qu'on appelle des personnages conceptuels. Alors, les personnages conceptuels, c'est un concept inventé par Deleuze, qui sont des figures intermédiaires entre les concepts à proprement parler et les personnes. Alors, pour donner un exemple, Socrate, quand on pense à la sagesse, on peut penser spontanément à Socrate. Socrate est un personnage conceptuel. Donc, dans la littérature philosophique, il y a un certain nombre de personnages comme ça qui, quand on y pense, font référence à un certain type de démarche philosophique. Alors ici, le personnage conceptuel central, c'est ce que l'auteur appelle, mais parce que ça fait référence à un texte de Hobbes, fait appel à ce qu'on appelle l'insensé. I-N-S-E-N-S-E, insensé. Alors qu'est-ce que l'insensé ? L'insensé dénonce le caractère illusoire des normes de la justice. Il refuse de ce fait de faire allégeance aux règles de justice en vigueur. Il affirme que l'injustice est préférable à la justice, car exercer l'injustice est plus efficace pour soi. Il considère que le bien commun est une fiction, que l'égalité et la réciprocité sont des mystifications, et que le civisme une expression dénuée de sens. Et il soutient que seul l'égoïsme est le fondement de la justice. Alors évidemment, c'est un prototype un peu chargé, mais c'est sous l'angle du personnage conceptuel. Alors, l'auteur se propose d'examiner les arguments des insensés ou objecteurs que le philosophe a bien du mal à contrarier. Alors, je ne peux pas reprendre en 20 minutes toute la finesse des analyses. Je vais reprendre que quelques points saillants, par affirmation, sans démonstration, parce qu'il faudrait plusieurs heures sinon pour ça. Alors, il y a deux moments dans le livre. Il y a d'abord une galerie de portraits de personnages conceptuels dans l'histoire de la philosophie qui ont contesté la proposition selon laquelle il est rationnel d'être juste. Alors on trouvera des portraits depuis Platon à Hobbes, Diderot, Rousseau, Hume, Machiavel, Sade et John Rawls. Alors je disais donc que c'est une galerie de portraits tirée de l'histoire de la philosophie dans un premier temps et dans un deuxième moment. Nous verrons comment le concept d'insensé a été progressivement remplacé, alors vous allez être étonné, par le passager clandestin, ou, puisqu'il faut parler anglais, free rider, R-I-D-E-R, qui est l'individu qui ne contribue pas à la hauteur de ce dont il profite, à savoir le risquier qu'on trouve dans la philosophie anglo-saxonne, et également remplacé par les théories contemporaines du choix rationnel, dont je parlerai assez peu d'ailleurs. Alors, par ordre chronologique, nous allons commencer par personnage bien connu au niveau de chez Platon, c'est-à-dire les sophistes. les sophistes personnifiés par Calliclès, qui prône le franc-parler violent, et Thrasymarque, qui est porté par l'amour du pouvoir. Et la thèse des sophistes, résumé un peu brutal, les sophistes défendent le droit du plus fort, opposent la vie active, c'est-à-dire la vie dans la cité, à la vie contemplative, c'est-à-dire la vie des philosophes, le philosophe n'apportant rien à la vie de la cité. Ils affirment qu'il n'y a aucune raison de mener une vie honnête et juste. La meilleure voie à suivre est celle de l'égoïsme impitoyable et sans scrupules. Et surtout, de ne pas suivre la voie ardue et obscure de la vertu. Alors, les arguments de Socrate pour mener une vie juste sont que la justice est ce qui permet de rendre la vie sociale harmonieuse, que l'exercice de la vertu est à elle-même sa propre récompense, et que la vie vertueuse est récompensée après la mort. Mais on s'aperçoit dans certains dialogues de Platon, dans ces dialogues qui mettent en scène ces deux personnages, c'est que Socrate n'arrive pas à convaincre ses interlocuteurs, Socrate n'arrive pas à être convaincu par les arguments de ses interlocuteurs, les dialogues sont, comme on dit, en impasse, aporitiques, pour prendre un terme technique, non conclusifs, et l'équation raison égale vertu égale bonheur n'est pas démontrée. Donc on fait un saut dans le temps, on passe à Machiavel. Alors Machiavel, 1469-1527. Mais là, il n'y a pas d'analyse à proprement parler de Machiavel, ça fait partie des auteurs cités à titre littéraire. Donc on simplifie, on dit que Machiavel, il est pour l'usage assumé de l'injustice, hein. Les parjures, les traîtrises, les calomnies et les cruautés sont les voies d'accès quasi exclusives au pouvoir suprême. Troisième exemple, Hobbes, 1588-1679, avec le personnage qu'il appelle The Fool, F-O-O-L-E, qui veut dire l'insensé d'ailleurs, qui est tiré du Léviathan, paru en 1651. Alors le principe pour Hobbes est que le juste et l'injuste est dit par le souverain, qui est un souverain absolu, qui est garant des promesses et des contrats. Être juste, pour Hobbes, c'est respecter les lois, la propriété et les contrats, et ses engagements. Est insensé celui qui ne tient pas ses engagements. Alors, quels sont les risques pour l'insensé de ne pas tenir ses engagements? C'est de rester seul au monde, car il risque l'exclusion pour ne pas tenir ses promesses. Il perd aussi toute chance de coopération future. Il faut qu'il calcule bien ses risques. Alors comment l'insensé, selon Hobbes, se tire d'affaire? En fait, le véritable insensé, il ne craint rien. Car comme il ne croit pas en Dieu, il est athée, il ne craint pas la sanction de ses actes post-mortem. Et il ne craint pas le souverain, car il suffit de supprimer le souverain en place pour prendre sa place et dicter de nouvelles règles. Alors, le conspirateur devient par tyrannicide souverain et s'affranchit de ces risques-là. Une trahison qui réussit n'est plus une trahison. La perversité devient vertu. Quoi qu'il en soit, Hobbes, d'après l'auteur, a bien du mal à justifier la légitimité de l'usurpateur. Quatrième exemple qu'on trouve chez Diderot, qui se décline en deux personnages. Il y a ce qu'il appelle le raisonneur violent et le neveu de Rameau. Alors, le raisonneur violent défie l'idée de devoir réciproque et s'octroie le droit de disposer de l'existence des autres et réciproquement. Il y a un droit d'être tué et le droit de tuer. Donc, il faut rendre le mal pour le bien et se délecter à commettre le mal. Alors, il y a une version plus soft du raisonneur violent, c'est le neveu de Rameau, qui a existé d'ailleurs, qui est un personnage jouisseur, arrogant et extravagant, qui fait l'éloge de l'injustice sous le prétexte suivant: dans un monde corrompu, l'injustice est seule payante. Alors, Diderot conteste cette affirmation en affirmant, que la sociabilité est une tendance naturelle dont le principe doit être cherché dans l'identité de nature de tous les hommes. Le raisonneur violent défie la loi naturelle de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse. Alors la différence entre le neveu de Rameau, il se contente de jouir de la vie comme un parasite, alors que le raisonneur violent espère le pouvoir suprême. Alors le neveu de Rameau est l'esquisse déjà du free rider, du resquilleur. Alors on va passer à Rousseau, en cinquième position. Là, c'est une position un peu plus complexe. Rousseau appelle l'insensé l'homme indépendant. Alors l'homme indépendant entend bénéficier de la coopération sociale sans contribuer à la hauteur de ce dont il profite. L'homme indépendant est donc un passager clandestin qui empêche au social de se constituer de manière pacifique. Alors comment convaincre l'homme indépendant de la pertinence d'être juste, sans garantie de réciprocité? La seule force du raisonnement ne suffit pas pour Rousseau. Ne suffit pas. Comment préférer le genre humain à sa propre personne? Alors pour Rousseau, l'injuste ne peut être convaincu rationnellement, mais affectivement. Préférer le bien commun à son intérêt propre ne peut se faire sans amour de la patrie, des lois et de l'égalité. Et il faut percevoir la liaison de ses obligations avec son intérêt étroit. C'est ça que c'est pas facile. Alors il faut qu'il soit citoyen, pour arriver à ça, il faut qu'il soit citoyen contraint d'obéir aux lois et à la volonté générale. La volonté générale est une réponse à la tentation du resquilleur, car la volonté particulière peut agir sans cesse contre la volonté générale, laquelle est l'expression du bien commun. Alors on y parvient, comment parvient-on à respecter la loi générale? Alors par la vertu politique ou par la contrainte? Pour Rousseau, Dieu seul est le garant des promesses. Pour Rousseau, d'ailleurs, le passager clandestin n'est pas le pauvre, mais le bourgeois à l'époque. L'insensé n'est pas le grand seigneur libertin, mais le rentier oisif ou le pensionné du roi. Seul l'impôt permet le paiement de la dette sociale, impôt qui active le contrat social. Donc vous voyez, la position de Rousseau est assez complexe à exposer. Sixième exemple, plus simple, Hume ou le fripon intelligent. Hume affirme qu'il y a un sens spontané de son intérêt, mais pas de sens spontané de la justice. Le fripon intelligent calcule au coup par coup son intérêt à respecter ou à violer les règles, en se déculpabilisant, en estimant que ses infractions sont minimes, prises une à une. Le free riding apparaît dans les sociétés nombreuses où la défection de certains peut passer inaperçue et assurer l'impunité. Pour Hume, semblable à la solution de Hobbes, il faut forcer les hommes à être justes en les menaçant de sanctions. Septième point, Sade. Alors Sade, comment dirais-je? Sade va jusqu'au bout du raisonnement de l'insensé. Car le principe pour Sade est le suivant. Il ne sera jamais rationnel d'être juste, car les rapports de domination prévalent dans la nature et la société. La seule loi de la nature est de léser autrui par tous les moyens, tant qu'il y aura des forts et des faibles. La véritable injustice est de soumettre justement l'insensé au joug des lois. Donc il y a un renversement complet du paradigme. Alors, quel est le programme pour réaliser ça? Il faut être éduqué à vaincre ses réticences à commettre le mal. Il faut dompter les sursauts de sa conscience. Il faut refuser la fraternité. Il faut léser autrui par tous les moyens, car le plus vif penchant des hommes est de tyranniser ses semblables. Il faut récuser l'idée de réciprocité, car je reçois toujours moins que ce que je donne. Donc, il faut dissoudre tout lien de convention et il faut s'engager dans un projet révolutionnaire d'anéantissement du monde, notamment vis-à-vis de l'aristocratie et de la bourgeoisie à l'époque. Et il faut prendre appui sur l'agressivité et l'énergie de la sexualité. Et d'après l'auteur, là, ça préfigure les analyses de Freud plus tard. Alors, tout ceci conduit, bien sûr, à des choses un peu effrayantes. Et préfigure les ordres totalitaires qui n'ont d'autres normes que l'efficace du désir de quelques-uns. Alors nous arrivons maintenant, ça c'était les insensés des siècles passés, si on peut dire, On arrive, j'ai déjà évoqué, le passager clandestin. Alors au XXe siècle, on change de paradigme, on passe à aux théories du choix rationnel depuis 1950, qui prend en compte la nécessité de coopérer dans un univers où nous n'avons qu'une partie des informations. Ça, c'est toujours vrai, pour prendre ces décisions, on ne dispose que d'une partie des informations. Le passager clandestin prétend user des biens publics sans s'acquitter de sa contribution et optimise, en calculant ses risques, ses conduites. Il pense que sa conduite d'évitement passera inaperçue, mais si tout le monde resquille, l'action collective n'est plus finançable ou financée. Le resquilleur n'est plus alors marginal, mais l'ennemi. Il y a donc un risque mortel pour toute société à laisser prospérer la fraude. Alors, au XXe siècle, c'est John Rawls, un philosophe anglo-saxon, qui s'est attaqué au problème des abus. Et il affirme, cet auteur, que les rapports sociaux pourraient reposer sur la confiance et l'amitié civique par respect des règles du jeu et par la pratique du fair play. Donc il y a une vision optimiste ici, des relations basées sur les relations de confiance, et il n'y a pas besoin de souverain ou gardien des promesses. Mais la loyauté, tenir ses promesses, n'a de sens que s'il existe au préalable la promesse de tenir ses promesses. Et la justice comme manière, est-il une manière spontanée de désirer le bien commun? L'auteur, Rawls oublie, d'après l'auteur, la violence humaine, la colère, la haine et la cruauté. Et donc, l'auteur pense que Rawls a une position bien naïve des relations humaines. Alors donc, après ces quelques portraits, on arrive à la conclusion que je trouve très pessimiste de la part de l'auteur, ou réservée, car l'insensé, le raisonneur violent, l'homme indépendant, le fripon, le maître libertin à l'Assad, le free rider, ne veulent pas résister à leur pulsion et à leur égoïsme. Mais ramener l'insensé au simple free rider est une défaillance philosophique qui réduit le mal politique au passager clandestin, c'est-à-dire concrètement, à notre époque, au pirate informatique, au pirate fiscal protégé dans les paradis fiscaux. La philosophie a abandonné la réflexion sur le mal qui ressurgit avec le fanatique politique ou le fanatique religieux qui est animé par la foi et non par l'égoïsme. Et là, on sent qu'il y a un basculement là, dans l'analyse de l'auteur. Malheureusement, elle s'arrête au dernier paragraphe sur ce questionnement. Et j'aurais aimé en savoir plus. Enfin, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter sur France Culture, dans les chemins de la philosophie, le 23 décembre 2016, l'intervention de Céline Spector sur son livre. C'est beaucoup plus clair que ce que j'ai vu. Je vous remercie.